Chapitre 4. Confession d'un jeune homme d'aujourd'hui. Maison de justice de Rion, janvier 1887. Je vous écris, monsieur, ce mémoire sur moi-même que j'ai refusé à mon avocat, malgré les supplications de ma mère. Je vous l'écris à vous qui me connaissez si peu dans les faits, et à quel moment de ma vie, pour la même raison qui m'a fait vous apporter mon premier travail. Il existe de vous, le maître illustre, à moi votre élève, accusé du crime le plus infâme, un lien que les hommes ne sauraient comprendre, que vous ignorez vous-même, et que je sens, moi, aussi étroit qu'imbrisable. J'ai vécu avec votre pensée et de votre pensée si passionnément, si complètement, à l'époque la plus décisive de mon existence. Maintenant, et dans la détresse intellectuelle où je me trouve, c'est vers vous que je me tourne, comme vers le seul être de qui je puisse attendre, espérer, implorer une aide. Ah, ne me méconnaissez pas, monsieur et vénéré maître, et croyez que les troubles terribles où je me débats ne sont point causés par le vain appareil de justice qui m'environne. Je ne serais pas digne du nom de philosophe si je n'avais, dès longtemps, appris à considérer ma pensée comme la seule réalité avec quoi j'ai à compter, le monde extérieur comme une indifférente et fatale succession d'apparences. Dès ma 17e année, j'avais adopté comme règle de me répéter, dans les heures de contrariété petite ou grande, la formule de notre cher Spinoza. La force par laquelle l'homme persévère dans l'existence est bornée, et celle des causes extérieures la surpasse infiniment. Je serai condamné à mort, dans 6 semaines, pour ce crime dont je suis innocent et dont je ne puis me justifier. Vous comprendrez pourquoi, après avoir lu ces pages, que j'irai à l'échafaud sans trembler. Je crois me connaître assez pour affirmer que j'accepterai cet événement avec le même effort de sang-froid que si un médecin me diagnostiquait, après m'avoir ausculté, une maladie avancée du cœur. Condamné, j'aurai à vaincre la révolte de l'animal d'abord et ensuite à supporter le contre-coup du désespoir de ma mère. J'ai appris, par vos livres, le remède contre de telles épreuves, et en opposant à l'image de la mort prochaine le sentiment de l'inéluctable nécessité, en diminuant la vision de la douleur de ma mère par le rappel précis des lois psychologiques qui gouvernent les consolations, j'arriverai au calme relatif. Certaines phrases de vous y suffiraient. Celle, par exemple, du 5e chapitre du 2 livre dans votre anatomie de la volonté que je sais par cœur. L'universel entrelacement des phénomènes fait que sur chacun d'eux porte le poids de tous les autres, en sorte que chaque parcelle de l'univers et à chaque seconde peut être considérée comme un résumé de tout ce qui fut, de tout ce qui est, de tout ce qui sera. C'est en ce sens qu'il est permis de dire que le monde est éternel dans son détail, aussi bien que dans son ensemble. Oh, quelle phrase! Et comme elle enveloppe, comme elle affirme et démontre l'idée que tout est nécessaire en nous, comme autour de nous, puisque nous sommes, nous aussi, une parcelle et un moment de ce monde éternel. Hélas! Pourquoi faut-il que cette idée, si lucide au regard de mon esprit, lorsque je raisonne comme on doit raisonner, avec ma tête et à laquelle j'acquiesce de toute la force de mon être, ne puisse détruire en moi une espèce de souffrance si particulière qui envahit mon cœur. Lorsque je me souviens du drame que j'ai traversé, de certaines actions que j'ai faites, d'autres dont je suis l'auteur, bien qu'indirect. Pour tout vous dire d'un mot, mon cher maître, quoique encore une fois je n'ai pas tué Mademoiselle de Jussa, j'ai été mêlé de la manière la plus étroite au drame de cet empoisonnement, et j'ai des remords. Quand les doctrines auxquelles je crois, les vérités que je sais, les convictions qui font l'essence même de mon intelligence, me font considérer le remords comme la plus niaise des illusions humaines. Ces convictions se trouvent impuissantes à me procurer cette paix de la certitude qui fut la mienne. Je doute avec mon cœur de ce que mon esprit reconnaît comme vrai. Je ne pense pas que pour un homme dont toute la jeunesse a été consumé de passions intellectuelles, il y ait un supplice plus affreux que celui-là. Mais pourquoi essayer de vous traduire avec des phrases littéraires un état mental que je veux justement vous exposer par son détail, à vous, le grand connaisseur des maladies de l'âme, pour que vous me donniez le seul secours qui puisse m'être bienfaisant, une parole qui m'explique à moi-même ce qui m'est inexplicable, qui m'atteste que je ne suis pas un monstre, qui me soutienne en me prouvant que je ne me suis pas trompé depuis 4 années, en adhérant à la foi nouvelle avec toute l'énergie d'une créature sincère. Enfin, mon cher maître, je suis très misérable, et j'ai besoin de dire toute ma misère. À qui m'adresser, sinon à vous ? Puisque je ne saurais espérer d'être intelligible à qui que ce fût, hors du psychologue dont je suis l'élève. Depuis 2 mois, tantôt que je vis dans cette prison, l'instant où j'ai pris cette résolution de vous écrire ce mémoire a été le seul où je me sois retrouvé tel que je fus avant ces terribles événements. J'avais essayé de m'absorber dans quelques travaux d'ordre tout abstraits. Je n'avais pas pu. J'y aurais du moins gagné de pouvoir vous écrire ces pages sans que l'on s'occupe de me surveiller. Voici 4 jours que je ne songe qu'à cela. Et grâce vous en soit déjà rendue, la force intellectuelle me revient. J'ai trouvé même un peu du plaisir qui était le mien autrefois, quand j'écrivais mes premiers essais à reprendre, pour ce travail, la froide sévérité de ma méthode, de votre méthode. J'ai jeté hier sur le papier un plan de cette monographie de mon moi actuel, en pratiquant la division par paragraphe que vous avez adoptée dans vos travaux. Je me suis prouvé la force persistante de ma pensée en reconstruisant ma vie depuis son origine, comme je résoudrais un problème de géométrie par synthèse. Je vois distinctement à l'heure présente que la crise dont je souffre a pour facteur mes hérédités d'abord, ensuite un milieu d'idées, celui où j'ai grandi, puis un milieu de faits, celui où j'ai été transplanté par mon entrée chez les Jussard-Randon. La crise elle-même et les questions qu'elle soulève en moi seront la matière des 2 derniers fragments de cette étude que j'essaierai de débarrasser de tout le parasitisme des souvenirs insignifiants pour la réduire à ce qu'un maître de notre temps appelle les génératrices. À tout le moins, je vous aurai fourni un document exact sur les façons de sentir que j'ai cru autrefois très précieuses et très rares, et je vous aurai prouvé 2 fois, par ma confiance dans votre absolue discrétion et par mon appel à votre appui philosophique, ce que vous avez été pour celui qui vous écrit ces lignes et qui, vous demandant pardon de ce préambule trop long, commence aussitôt sa dissection. Je saurai bien vous la faire tenir une fois finie. Paragraphe 1er. Mes hérédités. Aussi loin que je remonte en arrière dans mon passé, je constate que ma faculté dominante, celle qui s'est trouvée présente dans toutes les crises de ma vie, petites ou grandes, comme elle se retrouve présente aujourd'hui, a été la faculté, j'entends, le pouvoir et le besoin du dédoublement. Il y a toujours eu en moi comme 2 personnes distinctes, une qui allait, venait, agissait, sentait, et une autre qui regardait la première aller, venir, agir, sentir avec une impassible curiosité. À l'heure actuelle, et tout en sachant que je suis là en prison, accusé d'un crime capital, perdu d'honneur et aussi accablé de tristesse, que c'est bien moi, Robert Grillou, né à Clermont le 5 septembre 1865, et non pas un autre, je pense à cette situation comme un spectacle auquel je demeure étranger. Même est-il juste de dire « je » ? Non, évidemment, car mon véritable moi n'est, à proprement parler, ni celui qui souffre, ni celui qui regarde. Il est composé des 2. Et j'ai eu de cette dualité une perception très nette, bien que je ne fusse pas capable alors de comprendre cette disposition psychologique exagérée jusqu'à l'anomalie dès mon enfance. Cette enfance que je vais évoquer d'abord en essayant de m'abstraire de l'heure présente et avec l'impartialité de l'histoire d'un autre. Mes premiers souvenirs me représentent cette ville de Clermont-Ferrand, et dans cette ville une maison qui donnait sur une promenade aujourd'hui bien changée, par la récente construction de l'école d'artillerie, le cours Sablon. La maison était bâtie, comme toutes celles de cette ville, en pierre de Volvic, une pierre grisâtre dans sa nouveauté, puis toute noirâtre, qui donne aux rues tortueuses une physionomie de cité du Moyen-Âge. Mon père, que j'ai perdu tout jeune, était d'origine lorraine. Il occupait à Clermont la place d'ingénieur des ponts et chaussées. C'était un homme chétif, de santé faible, avec un visage à la barbe rare, tout empreint d'une sérénité mélancolique qui m'attendrit quand j'y songe après des années. Je le revois dans son cabinet de travail, par les fenêtres duquel s'apercevait la plaine immense de la Limagne, avec la gracieuse éminence du puits de Crouel tout près, et tout au loin la ligne sombre des montagnes du Forez. La gare était voisine de notre maison, et le sifflement des trains arrivait sans cesse jusqu'à ce cabinet paisible. J'étais sur le tapis, au coin du feu, à jouer sans bruit, et cet appel strident produisait dès lors sur mes nerfs une étrange impression de mystère, d'éloignement, d'une fuite de tout. Mon père traçait à la craie sur un tableau noir des signes énigmatiques, figure de géométrie ou formule d'algèbre, avec cette netteté dans les lignes de ses courbes ou les lettres de ses polynômes qui révélaient l'habituelle méthode de tout son être. D'autres fois, il écrivait, debout, à une table d'architecte qu'il préférait à son bureau, table composée simplement d'une large planche de bois blanc placée sur deux tréteaux. Les grands livres de mathématiques rangés avec minutie dans la bibliothèque, les figures froides des savants, dont les portraits gravés en taille douce et sous verre, étaient les seuls objets d'art dont se décoraient les murs, la pendule qui représentait un globe du monde, deux cartes astronomiques pendues au-dessus du bureau, et sur ce bureau, la règle à calcul avec ses chiffres et son coulant de cuivre, les équerres, les compas, la règle plate en forme de T. J'évoque à mon gré les moindres détails de cette pièce où tout n'était que pensée, et ces images m'aident à comprendre comment, dès ma lointaine enfance, le rêve d'une existence purement intellectuelle et contemplative s'élabora en moi, favorisé sans doute par l'hérédité. Mes réflexions postérieures m'ont fait reconnaître dans plusieurs traits de mon caractère le résultat, transmis sous forme instinctive, de l'existence d'études abstraites menées par mon père. J'ai toujours éprouvé, par exemple, une horreur singulière pour l'action, si faible fut-elle, au point que de faire une simple visite me causait autrefois un battement de cœur, que les plus légers exercices physiques m'étaient intolérables, que d'entrer en lutte ouverte avec une autre personne, même pour discuter mes idées les plus chères, m'apparaît, même aujourd'hui, chose impossible. Cette horreur d'agir s'explique trop par l'excès du travail cérébral, qui, trop poussé, isole l'homme au milieu des réalités qu'il supporte mal parce qu'il n'est pas habituellement en contact avec elles. Je le sens bien, cette difficulté d'adaptation au fait me vient de ce pauvre père, de lui aussi cette faculté de généraliser, qui est la puissance, mais en même temps la manie de ma pensée. Et c'est son œuvre encore qu'une prédominance morbide du système nerveux qui a rendu ma volonté si folle à de certaines heures. Mon père, qui devait mourir si jeune, n'avait jamais été robuste. Il avait dû, à l'âge de la croissance, subir cette épreuve de la préparation à l'école polytechnique, meurtrière aux meilleures santé. Avec ses épaules étroites, avec ses membres appauvris par les longues séances de méditation sédentaire, ce savant aux mains transparentes semblait avoir dans les veines, au lieu des rouges globules d'un sang généreux, un peu de la poussière de cette craie qu'il a tant maniée. Il ne m'a pas légué des muscles capables de contrebalancer l'excitabilité de mes nerfs, en sorte que je lui dois, avec cette faculté d'abstraction qui me rend toute activité difficile, une espèce d'effrénée intempérance du désir. Chaque fois que j'ai souhaité ardemment, il m'a été impossible de réprimer cette convoitise. C'est une hypothèse qui m'est souvent venue lorsque je m'analysais moi-même, que les natures abstraites sont plus incapables que les autres de résister à la passion. Lorsque cette passion s'éveille, peut-être parce que le rapport quotidien entre l'action et la pensée est brisé en elle. Les fanatiques en seraient la preuve la plus éclatante. J'ai vu ainsi mon père, d'habitude extrêmement patient et doux, s'emporter en des colères d'une violence folle qui le faisait presque s'évanouir. Sur ce point aussi, je suis bien son fils et à travers lui, le descendant d'un grand-père, peu équilibré, sorte d'homme de génie primitif, demi-paysan parvenu à force d'invention mécanique à une demi-fortune d'ingénieur civil, puis ruiné par des procès. De ce côté-là de ma race, il y a toujours un élément dangereux, quelque chose de déchaîné par instant, à côté d'une intellectualité constante. J'ai jadis considéré comme un état supérieur cette double nature, l'ardeur possible de la passion jointe à cette énergie continue de pensée abstraite. J'ai eu pour rêve d'être à la fois fiévreux et lucide, d'être le sujet et l'objet, comme disent les Allemands, de mon analyse, le sujet qui s'étudie lui-même et trouve dans cette étude un moyen d'exaltation à la fois et de développement scientifique. Hélas, où cette chimère m'a-t-elle mené? Mais ce n'est pas l'heure de parler des effets, nous n'en sommes encore qu'aux causes. Parmi les circonstances qui m'ont insu agir sur moi durant mon enfance, je crois que voici une des plus importantes. Chaque dimanche matin, et aussitôt que je pus lire, ma mère commença de m'emmener avec elle à la messe. Cette messe se célébrait à 8 heures dans l'église des Capucins, assez nouvellement bâtie sur un boulevard planté de platanes qui monte du cours Sablon à la place du Taureau, enlongeant le jardin des plantes. À la porte de cette église se tenait assise, devant une boutique volante, une marchande de gâteaux appelée la mère Girard, que je connaissais bien, pour lui acheter au printemps de petits bâtons auxquels 4 ou 5 cerises pendaient, attachées par du fil blanc. C'étaient les premiers de ces fruits que je mangeasse dans la saison. Cette friandise aigre et fraîche fut une des sensualités de ces jours d'enfance et serait pu devenir, pour quelqu'un qui m'eût observé, l'occasion de signaler en moi cette frénésie du désir dont je vous parlais. J'avais presque la fièvre quand je m'acheminais vers cette boutique. Ce n'était pas la seule raison qui me fit préférer cette église des Capucins, avec son architecture très simple, aux cryptes souterraines de Notre-Dame-du-Port et aux voûtes de la cathédrale soutenues par de si élégantes colonnes à faisceaux. Chez les Capucins, le cœur était fermé. Durant les offices, d'invisibles bouches chantaient derrière les grilles des cantiques qui remuaient étrangement mon imagination d'enfant, parce qu'ils me semblaient venir de si loin, comme d'un abîme ou d'un tombeau. Je regardais ma mère prier à côté de moi avec l'ardeur contenue qui se manifeste dans ses moindres actions. Et je songeais que mon père n'était pas là, qu'il ne venait jamais à l'église. Ma tête d'enfant se tourmentait de cette absence au point que j'avais un jour demandé à ma mère « Pourquoi papa ne vient-il pas à la messe avec nous ?» Avec mes yeux inquisiteurs d'enfant, je n'avais pas eu de peine à démêler l'embarras où ma question jetait ma mère. Elle s'en tira pourtant avec une réponse analogue à des centaines d'autres que m'ont faite depuis ses lèvres de femme essentiellement éprise de principes fixes et d'obéissance. Il va à une autre messe, à son heure, et puis je t'ai déjà dit que les enfants ne doivent jamais demander pourquoi leurs parents font telle ou telle chose. Toute la différence d'âme qui nous a séparés, ma mère et moi, tenait déjà dans cette phrase qu'elle prononçait par un froid matin d'hiver, en nous en revenant sous les arbres du cours Sablon. Je vois encore sa pèlerine, ses mains dans son manchon doublé de soie brune d'où sortait à moitié son livre, et la sincérité de son visage même dans son pieux mensonge, et tandis qu'elle disait « Il ne faut jamais demander pourquoi ». Je vois ses yeux qui, tant de fois depuis lors, m'ont regardé d'un regard qui ne me comprenait pas, et dès cette époque, elle ne soupçonnait rien de la nature d'un enfant pour lequel penser, c'était déjà se demander toujours et à propos de toute chose « Pourquoi ?» Oui, pourquoi ma mère m'avait-elle trompé ? Car je savais que mon père n'allait à aucune espèce d'office, et pourquoi n'y allait-il pas ? Tandis que les graves et tristes accents des moines cachés entonnaient les réponses de la messe, je me perdais dans cette question. Je savais, sans me rendre bien compte des raisons de cette supériorité, que mon père comptait parmi les premiers de la ville. Que de fois, à la promenade, avions-nous été, lui et moi, arrêtés par quelque ami qui, tapotant ma joue, me disait « Eh bien, nous deviendrons un grand savant comme le père ?» Quand ma mère prenait son avis, c'était pour l'écouter avec la soumission d'un intime respect. Elle trouvait donc naturel qu'il n'accomplît pas certaines actions qui pour nous étaient obligatoires. Nous n'avions pas les mêmes devoirs, lui et nous. Cette idée ne se formulait pas dès lors dans mon cerveau d'enfant avec cette netteté, mais elle y déposait déjà le germe de ce qu'allait être plus tard une des convictions de ma jeunesse, à savoir que les mêmes règles ne gouvernent pas les hommes très intelligents et les autres. Ce fut là, dans cette petite église, et docilement penché sur mon paroissien, que le grand principe de ma vie a pris naissance. Ne pas considérer comme une loi pour nous autres qui pensons ce qui est et doit être une loi pour ceux qui ne pensent pas. De même que j'ai reçu de mes conversations avec mon père, à ce même âge, durant nos promenades, le premier germe de ma vue scientifique du monde. La campagne autour de Clermont est merveilleuse, et quoique je sois, au rebours d'un poète, un homme pour qui le monde extérieur existe peu, j'ai gardé à jamais au fond de ma mémoire l'image des horizons qui ont entouré ces promenades. Tandis que la ville d'un côté regarde vers la plaine de la Limagne, elle s'adosse de l'autre au dernier contrefort de la chaîne des Dômes. L'échancrure des cratères éteints, la boursouflure des éruptions calmées, les coulées de lave refroidies donnent aux lignes de ces montagnes volcaniques une ressemblance avec les paysages que le télescope découvre dans ce cadavre de planète qu'est la Lune. C'est donc, là-bas, un sauvage et grandiose souvenir des plus terribles convulsions du globe, et ici, la plus jolie rusticité de chemins pierreux entre des vignes, de ruisseaux murmurants sous des saules et parmi des châtaigniers. Les grands bonheurs de mon enfance ont consisté dans d'interminables vagabondages avec mon père, dans tous les sentiers qui vont ainsi du Puy de Crouel à Gergovie, de Roya à Durtol, de Beaumont à Gravenoire. Rien qu'à écrire ces noms, ma mémoire rajeunit mon cœur. Me revoici le petit garçon qu'un portrait conservé me montre avec ses longs cheveux, avec ses jambes serrées dans des guêtres de drap, qui chemine en tenant la main de son père. D'où lui venait ce goût des champs, à ce savant mathématicien, l'homme de cabinet et de réflexion abstraite. J'y ai souvent songé depuis, et je crois avoir découvert à son occasion une loi peu connue du développement des esprits. Nos goûts de jeunesse persistent même quand nous nous sommes développés dans un sens contraire à eux, et nous continuons de les pratiquer en les justifiant par des raisons intellectuelles qui les excluraient. Je m'explique. Mon père aimait la campagne simplement parce qu'il avait été élevé dans un village, que tout petit il avait passé des journées entières au bord des ruisseaux, parmi les insectes et les fleurs. Au lieu de s'abandonner à ses goûts d'une manière toute simple, il cherchait à y mélanger ses préoccupations actuelles de savant. Il ne se serait point pardonné d'aller dans la montagne sans y étudier la formation du terrain, de regarder une fleur sans en déterminer les caractères et sans en découvrir le nom, de ramasser un insecte sans se rappeler sa famille et ses mœurs. Grâce à la rigueur de sa méthode en tout travail, il était arrivé ainsi à une connaissance très complète de la contrée, et quand nous marchions ensemble, cette connaissance faisait la matière unique de notre entretien. Le paysage des montagnes lui devenait un prétexte pour m'expliquer les révolutions de la terre. Il passait de là sans effort, avec une clarté de parole qui me rendait de telles idées perceptibles, à l'hypothèse de Laplace sur la nébuleuse, et j'apercevais distinctement en imagination les protubérances planétaires s'échappant du noyau enflammé du soleil en rotation. Le ciel de la nuit, par les beaux mois d'été, devenait une espèce de carte qu'il déchiffrait pour mes yeux de 10 ans, et où je distinguais l'étoile polaire, les 7 étoiles du chariot, la lyre, Sirius, tous ces univers inaccessibles et formidables dont la science connaît le volume, la position et jusqu'aux métaux. Il en était de même des fleurs qu'il me dressait à ranger déjà dans un herbier, des cailloux que je cassais sous sa direction avec un petit marteau de fer, des insectes que je nourrissais ou que je piquais, suivant les cas. Bien avant que l'on ne pratiquât dans les collèges les leçons de choses, mon père appliquait à mon éducation première sa grande maxime « Ne rien rencontrer que l'on ne s'en rende compte scientifiquement », conciliant ainsi la paysannerie de ses premières impressions avec la précision acquise dans ses études mathématiques. J'attribue à cet enseignement le précoce esprit d'analyse qui se développa en moi dès cette première adolescence et qui se serait sans doute tourné vers les études positives si mon père avait vécu. Mais il ne devait pas achever cette éducation entreprise d'après un plan raisonné dont j'ai retrouvé depuis la trace dans ses papiers. Justement, au cours d'une de ses promenades et durant une des plus torrides journées de l'été de ma 10e année, nous fûmes surpris, lui et moi, par un orage qui nous mouilla l'un et l'autre jusqu'aux os. Dans le temps que nous mîmes à revenir avec nos vêtements ainsi trempés, mon père eut-il froid? Le soir, il se plaignit d'un frisson. 2 jours après, une fluxion de poitrine se déclarait, et la semaine suivante, il était mort. Comme je veux, dans cette indication sommaire des diverses causes qui m'ont formé mon âme de jeune homme, éviter à tout prix ce que j'ai le plus au monde, l'étalage de la sentimentalité subjective, je ne vous raconterai pas, mon cher maître, d'autres détails sur cette mort. Il y en eut de navrants, mais dont je ne sentis la tristesse qu'à distance et plus tard. Je me rappelle, quoique je fusse un garçon déjà grand et remarquablement développé, avoir éprouvé plus d'étonnement que d'affliction. C'est aujourd'hui que je regrette vraiment mon père, que je comprends ce que j'ai perdu en le perdant. Je crois vous avoir nettement marqué ce que je lui dois. Le goût et la facilité de l'abstraction, l'amour de la vie intellectuelle, la foi dans la science et le précoce maniement de la méthode, voilà pour l'esprit. Pour le caractère, la première divination de l'orgueil de pensée est aussi un élément un peu morbide, cette difficulté d'agir qui a pour conséquence la difficulté de résister aux passions lorsqu'elles vous entraînent. Je voudrais marquer aussi nettement ce que je crois devoir à ma mère. Et tout d'abord, j'aperçois ce fait que cette seconde influence agit sur moi par réaction, tandis que la première avait agi directement. À vrai dire, cette réaction ne commença qu'au jour où, devenue veuve, elle voulut s'occuper de me diriger elle-même. Jusque-là, elle m'avait abandonné tout entier à l'éducation paternelle. Cela peut sembler étrange que, demeurée seule en ce monde, elle et moi, elle si énergique, si dévouée, et moi si jeune, nous n'ayons pas vécu, au moins durant ces années-là, en complète communion du cœur. Il existe en effet une psychologie rudimentaire pour laquelle ces mots, mère et fils, sont synonymes d'absolue tendresse, d'entente intime des âmes. Peut-être en est-il ainsi dans les familles de tradition ancienne. Quoiqu'en nature humaine, je ne crois guère à ce qui suppose une simplicité entière des rapports entre personnes d'âge et de sexe différents. En tout cas, les familles modernes présentent sous les étiquettes conventionnelles de cruels phénomènes de divorce secret, de mésintelligence foncière, quelquefois de haine, qui se comprennent trop lorsqu'on pense à leurs origines. Il se fait depuis 100 ans des mélanges de province à province et de race à race qui ont chargé notre sang à presque tous d'hérédités contradictoires. Des gens se trouvent être, nominalement, de même famille, qui n'ont pas un trait commun dans la structure mentale et morale. Par suite, l'intimité quotidienne entre ces êtres devient une cause de conflits quotidiens ou de dissimulations constantes. Ma mère et moi, nous en sommes un exemple que je qualifierais d'excellent si le plaisir de rencontrer la preuve bien nette d'une loi psychologique ne s'accompagnait du regret cuisant d'en avoir été la victime. Mon père, je vous l'ai dit, était un ingénieur sorti de l'école polytechnique et fils d'un ingénieur civil. Je vous ai dit aussi qu'ils étaient tous deux de race lorraine. Il y a un proverbe qui dit « Lorrain, traître à son roi et à Dieu même ». Ce proverbe exprime, sous une forme inique, cette observation très juste qu'il y a quelque chose de très complexe dans l'âme de cette population de frontières. Les Lorrains ont toujours vécu sur le bord de deux races et de deux existences, la germanique et la française. Qu'est-ce que le goût de la traîtrise d'ailleurs, sinon une dépravation d'un autre goût, admirable au point de vue intellectuel, celui de la complication sentimentale. Pour ma part, j'attribue à cet atavisme le pouvoir de dédoublement dont je vous parlais en commençant cette analyse. Je dois ajouter que j'ai souvent éprouvé, quand j'étais enfant, d'étranges plaisirs de simulation désintéressée qui procédaient évidemment du même principe. Il m'est arrivé de raconter à mes camarades toutes sortes de détails inexacts sur moi-même, sur mon endroit de naissance, sur l'endroit de naissance de mon père, sur telle promenade que je venais de faire, et non pas pour me vanter, mais pour être un autre, simplement. J'ai goûté plus tard des voluptés singulières à étaler les opinions les plus opposées à celles que je croyais être la vérité pour le même bizarre motif. Jouer un rôle à côté de ma vraie nature m'apparaissait comme un enrichissement de ma personne, tant j'avais d'instinct le sentiment que se déterminer dans un caractère, une croyance, un sentiment, c'est se limiter. Ma mère, elle, est une femme du Midi, absolument rebelle à toute complexité, pour qui les idées de choses sont seules intelligibles. Dans son imagination, les formes de la vie se reproduisent, concrètes, précises et simples. Quand elle pense à la religion, elle voit son église, son confessionnal, la nappe de la communion, les quelques prêtres qu'elle a connus, le livre de catéchisme où elle a étudié petite fille. Quand elle pense à une carrière, elle en voit l'activité positive et les bénéfices. Le professorat, par exemple, où elle a désiré que j'entrasse, c'était pour elle M. Limacet, le professeur de mathématiques, ami de mon père, et elle me voyait pareil à lui, traversant la ville deux fois le jour, en jaquette d'alpaga et en panama d'été, l'hiver les pieds dans des socs et le corps pris dans un paletot fourré avec un traitement fixe, les revenants bons des répétitions et la douce assurance d'une retraite. J'ai pu étudier à propos d'elle combien cette nature d'imagination rend ceux qu'elle domine incapables de se figurer l'intérieur des autres âmes. On dit souvent de ces gens-là qu'ils sont despotiques ou personnels, ou qu'ils ont un mauvais caractère. En réalité, ils sont, devant ceux qu'ils fréquentent, comme un enfant devant une montre. Ils voient marcher les aiguilles, il ne sait rien du rouage caché qui les fait mouvoir. De là, quand ces aiguilles ne vont pas à sa fantaisie, à les violenter et à pousser les ressorts de la montre, il y a juste l'épaisseur d'une impatience. Ma pauvre mère fut ainsi avec moi, et cela dès la semaine qui suivit notre commun désastre. Je me sentis presque aussitôt tombé vis-à-vis d'elle dans un état de malaise moral indéfinissable, mais sans qu'un fait précis eût donné corps à ce malaise. La première circonstance qui commença de m'éclairer sur le divorce profond qui existait dès lors entre nous deux, dans la mesure où ma tête d'enfant pouvait être ainsi éclairée, date d'une après-midi d'automne, 4 mois environ après la mort de mon père. L'impression reçue fut si forte que je me la rappelle comme si elle était d'hier. Nous avions dû changer d'appartement et nous avions loué le 3e étage d'une maison, tout en hauteur, dans la rue du Billard, ruelle étroite qui contourne les ombrages de la place des Petits Arbres, devant le palais de la préfecture. Ma mère avait été déterminée à ce choix par l'existence d'un balcon où j'étais justement en train de jouer durant cette belle après-midi. Mon jeu, où vous reconnaîtrez le tour scientifique imprimé par mon père à mon imagination, consistait à conduire un caillou qui me représentait un grand explorateur d'un bout à l'autre de ce balcon, et parmi d'autres pierres prises dans les pots de fleurs, ces autres pierres me figuraient, les unes des villes, les autres des animaux curieux dont j'avais lu la description. Une des fenêtres du salon donnait sur ce balcon. Elle était entr'ouverte et mon jeu m'ayant amené jusque-là, j'entendis que ma mère parlait de moi avec une visiteuse. Je ne pus me retenir d'écouter, avec ce battement de cœur que m'a longtemps donné l'idée de ma personnalité jugée par les autres. Plus tard, j'ai compris qu'entre notre être véritable et l'impression produite sur nos proches et même sur nos amis, il n'y a pas plus de rapport qu'entre la couleur exacte de notre visage et la couleur de son reflet dans une glace bleue, verte ou jaune. « Peut-être, disait la visiteuse, vous trompez-vous sur le compte de ce pauvre Robert. À 10 ans, on est si peu formé. » « Dieu vous entende, reprenait ma mère, mais je tremble qu'il n'ait aucune espèce de cœur. Vous n'imaginez pas comme il a été dur lors de la mort de son père. Le lendemain, il avait l'air de n'y plus penser. Et depuis, jamais un mot, vous savez, un de ces mots qui font voir que l'on se souvient de quelqu'un. Quand je lui en parle, il me répond à peine. On dirait qu'il n'a jamais connu ce cher homme qui était si bon pour lui. » J'ai lu quelque part que Mérimée, tout enfant, avait été grondé puis chassé d'une chambre par sa mère, qui, lui à peine sorti, éclata de rire. L'enfant entendit ce rire, il constata qu'on lui avait joué la comédie de l'irritation, et il sentit se former sur son cœur un pli de défiance qui ne s'effaça jamais. Cette anecdote me frappa beaucoup lorsque je la rencontrai. L'impression du célèbre écrivain m'offrait une analogie si saisissante avec l'effet que produisit sur moi le fragment de causerie ainsi entendu sur le balcon. C'était bien vrai que je ne parlais jamais de mon père, mais c'était si faux que je l'eusse oublié. J'y pensais au contraire sans cesse. Je ne longeais pas un trottoir, je ne traversais pas une rue, je ne regardais pas un de nos meubles sans que le souvenir du mort ne s'éveillât en moi, avec une obsession qui me faisait mal. Mais à cette obsession se mêlait un étonnement épouvanté qui l'eût disparu pour toujours, et le tout se confondait dans une espèce d'appréhension anxieuse qui me fermait la bouche quand on m'entretenait de lui. Je me rends si bien compte maintenant que ce travail de ma pensée ne pouvait pas être connu de ma mère. Sur le moment, et quand je l'entendis condamner ainsi mon cœur, j'éprouvai une humiliation profonde. Il me sembla qu'en parlant de la sorte, elle n'agissait pas avec moi comme elle aurait dû. Je la sentis injuste, et par une timidité de petit garçon encore farouche et mal apprivoisé, au lieu de tâcher de la ramener sur mon compte, je me crispai là sur place contre cette injustice. À partir de cette minute, une impossibilité de me montrer jamais à elle était née en moi. Je sentis cela aussi, et que lorsque ses yeux se poseraient sur les miens pour y chercher mes émotions, j'éprouverais un irrésistible besoin de lui cacher mon être intime. Ce fut là une première scène, ce rien peut-il même s'appeler de ce gros nom, qui fut bientôt suivi d'une seconde que je note encore malgré son insignifiance apparente. Les enfants ne seraient pas des enfants si les événements importants de leur sensibilité n'étaient pas puérils. J'étais à cette époque déjà passionné de lecture, et le hasard m'avait mis entre les mains des volumes bien différents de ceux qui se donnent en prix dans les distributions. Voici comment. Quoique mon père, en sa qualité de mathématicien, eût peu de lettres, il aimait quelques auteurs qu'il comprenait à sa manière, et en retrouvant plus tard quelques-unes de ses notes intimes sur ces auteurs, j'ai pu apprécier à quel degré la sensation des littératures est chose personnelle, irréductible, incommensurable, pour emprunter un mot à sa science favorite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de commune mesure entre les raisons pour lesquelles deux esprits goûtent ou repoussent un même écrivain. Entre autres ouvrages, mon père avait dans sa bibliothèque une traduction de Shakespeare en 2 volumes sur lesquels on m'asseyait pour hausser ma chaise devant la table quand le temps fut venu de quitter mon siège ou de petit bébé. On me laissait ensuite, et sans y prendre garde, manier ces volumes illustrés de gravures qui incitèrent bientôt ma curiosité à lire des morceaux du texte. C'était une Lady Macbeth, se frottant les doigts sous le regard horrifié du médecin et d'une servante, un Othello entrant le poignard à la main dans la chambre de Desdémone et penchant sa face noire sous la blanche forme endormie, un roi Lear déchirant ses vêtements sous le zigzag des éclairs, un Richard III couché dans sa tente et environné de spectres. Et du texte qu'accompagnaient ces gravures, je lus tant et tant de fragments que je finis par me familiariser avant ma 10e année avec tous ces drames qui exaltaient mon imagination dans ce que j'en pouvais saisir, sans doute parce qu'ils ont été composés pour des spectateurs populaires et qu'ils comportent un élément de poésie primitive et un grossissement enfantin. J'aimais ces rois qui défilaient, joyeux ou défiants à la tête de leur armée, qui perdaient ou gagnaient des batailles en quelques instants. Ces tueries accompagnées de fanfares, parmi les drapeaux déployés et les apparitions, ces rapides passages d'un pays à un autre, cette géographie chimérique, enfin tout ce qu'il y a de très abrégé, de presque rudimentaire dans les drames et particulièrement dans les chroniques, me séduisait au point que, resté tout seul, il m'arrivait de les jouer avec des chaises qui devenaient ainsi York ou Lancaster, Warwick ou Gloucester. Oh naïveté! Mon père, lui, dont les répugnances de géomètre pur à l'égard des réalités douloureuses de la vie étaient extrêmes, avait goûté dans Shakespeare les côtés touchants et purs, les profils de femmes d'une délicatesse achevée. Imogène et Desdémone, Cornélie et Rosalinde, lui avaient plu, quoique de tels rapprochements puissent sembler étranges, pour les mêmes raisons que les romans de Dickens, ceux de Topfler et jusqu'aux enfantillages de Florian et de Berquin. Voilà des contrastes qui prouvent l'incohérence des jugements artistiques uniquement fondés sur l'impression sentimentale. Tous ces livres, je les lisais aussi, et par surcroît ceux de Walter Scott et même les récits champêtres de Madame Sand, dans une autre édition illustrée. Il est certain qu'il eût mieux valu pour moi ne pas nourrir mon imagination d'éléments aussi disparates, et quelques-uns dangereux. Mais mon âge ne me permettait guère de comprendre que le quart des phrases, et d'ailleurs, tandis que mon père était à son tableau noir, en train de combiner ses formules, je crois bien que la foudre serait tombée sur la maison sans qu'il y prît garde, emporté qu'il était sur les ailes du tout-puissant démon de l'abstraction. Ma mère, à qui ce démon-là est aussi étranger que la bête de l'Apocalypse, ne fut pas longtemps, sitôt les premières heures de notre découragement passées, s'enfureter dans la pièce où je travaillais à mes devoirs, et par-dessous un thème commencé, elle découvrit un grand volume ouvert, c'était Livre à Noé de Scott. « Qu'est-ce que c'est que ce livre ? » demanda-t-elle. « Qui t'a permis de le prendre ?»« Mais je l'ai déjà lu une fois, » répondis-je. « Et cela ? » continua-t-elle en inspectant la petite bibliothèque, qui, à côté de mes bouquins d'écolier, enfermait, outre le Shakespeare, les Nouvelles Genevoises et Nicolas Nickleby, Embreuil et la Mare au Diable. « Ce n'est pas de ton âge, » insista-t-elle, « et tu vas me faire le plaisir d'emporter tous ces livres avec moi dans le salon pour les enfermer dans la bibliothèque de ton père. » Je me vois encore, transbordant, trois par trois, les volumes dont quelques-uns étaient très lourds pour mes petits bras, dans la froide pièce garnie de housses qui donnait sur le balcon, ce même salon où j'avais entendu ma mère, pas beaucoup de jours auparavant, juger si sévèrement mon cœur. De ses doigts qui sortaient tout blancs de leur mitaine noire, elle prenait les volumes, les rangeait à côté des gros traités de mathématiques. Elle ferma la porte vitrée du meuble et en détacha la clé qui prit place parmi beaucoup d'autres dans le trousseau qu'elle portait toujours avec elle, puis elle ajouta sévèrement « Quand tu voudras un livre, tu me le demanderas. » « Moi ?» lui demandai un de ces livres, « mais lequel ?» Je savais si bien qu'elle me refuserait tous ceux que j'aurais eu envie de relire et dont je venais regarder les titres à travers le vitrage. Je me rendais déjà trop compte que nous ne pensions de la même manière sur aucun point. Je lui en voulus d'avoir arrêté mes plus vifs plaisirs de lecture, moins peut-être à cause de cette défense que pour la raison qu'elle m'en donna, car elle crut devoir me répéter à cette occasion, et sur le danger des romans, des phrases empruntées sans doute à quelques manuels de piété qui dès lors me parurent exprimer exactement le contraire de ce que j'avais éprouvé par moi-même. Elle prit aussi prétexte des dangers que j'avais courus dans ces lectures inconsidérées pour s'occuper plus attentivement de mes études et tenter de diriger mon éducation. C'était son devoir, mais le contraste fut trop grand entre les idées auxquelles mon père m'avait initié précocement et la misère de sa pensée à elle, meublée d'impressions positives, mesquines et bourgeoises. J'allais avec elle maintenant à la promenade et elle causait avec moi. Sa conversation portait uniquement sur des remarques de tenue, sur mes manières bonnes ou mauvaises, sur mes petits camarades et sur leurs parents. Mon intelligence, trop tôt initiée au plaisir de penser, se sentait alors étouffée, comme opprimée. Le paysage immobile des volcans éteints me rappelait les convulsions grandioses du drame terrestre que mon père me retraçait autrefois. Les fleurs que je cueillais, ma mère les prenait pour quelques minutes, puis les laissait tomber sans presque les regarder. Elle ignorait leur nom, de même qu'elle ignorait celui des insectes qu'elle me forçait à rejeter sitôt pris comme malpropre et venimeux. Les chemins entre les vignes que nous suivions ensemble ne s'en allait plus vers cette découverte du vaste monde à laquelle la parole féconde du mort m'avait convié. Il prolongeait les rues de la ville et la misère des devoirs quotidiens. Je cherche des mots pour traduire la vague et bizarre sensation d'ennui, d'esprit mutilé, d'atmosphère raréfiée que m'infligeaient ces promenades, et je n'en trouve pas de précis. Le langage a été créé par des hommes faits pour exprimer des idées et des sentiments d'hommes faits. Les termes manquent qui correspondent aux perceptions inachevées des enfants, à leur pénombre d'âme. Comment raconter des souffrances qui ne se comprennent pas elles-mêmes et dont la révélation n'a lieu qu'une fois passée, celles par exemple qui furent les miennes, d'une tête où fermentent des conceptions hautes et larges, d'un cerveau sur le bord du grand horizon intellectuel, et qui subit la tyrannie inconsciente d'un autre cerveau rétréci, chétif, étranger à toute idée générale, à toute vue ample ou profonde. Aujourd'hui que j'ai traversé cette période d'une adolescence refoulée et contrariée, j'en interprète les moindres épisodes par les lois de constitution des esprits, et je me rends compte que le sort, en confiant l'éducation de l'enfant que j'étais à la femme qu'est ma mère, avait associé deux formes de pensée aussi irréductibles l'une à l'autre que deux espèces différentes. C'est par milliers que les détails me reviennent, où je retrouve la preuve de cette antithèse constitutive entre nos deux natures. Je vous en ai dit assez pour que je me contente de noter avec précision le résultat de ce heurt silencieux de nos âmes, et pour employer des formules empruntées au style philosophique, je crois apercevoir que deux germes furent disposés en moi par cette éducation à contresens de mon être, le germe d'un sentiment et le germe d'une faculté. Le sentiment fut celui de la solitude de moi, la faculté celle de l'analyse intérieure. Je vous ai dit que dans l'ordre de la sensibilité comme dans celui de la pensée, j'avais eu presque aussitôt l'impression que je ne pouvais pas me montrer à ma mère tout entier. J'apprenais ainsi, à peine né à la vie intellectuelle, qu'il y a en nous un obscur élément incommunicable. Ce fut d'abord chez moi une timidité. Cela devint par la suite un orgueil. Mais tous les orgueils n'ont-ils pas une origine analogue? Ne pas oser, se montrer, c'est s'isoler. Et s'isoler, c'est bien vite se préférer. J'ai retrouvé depuis, dans quelques philosophes nouveaux, M. Renan par exemple, mais transformé en un dédain triomphant et transcendantal, ce sentiment de la solitude de l'âme. Je l'ai retrouvé transformé en maladie et en sécheresse dans l'Adolphe de Benjamin Constant, agressif et ironique dans Bayle. Chez un pauvre petit collégien d'un lycée de province qui trottait, son cartable sous le bras, les mains gourdes d'engelures et les pieds dans des galoches, par les rues glacées de sa ville de montagne, l'hiver ce n'était qu'un obscur et douloureux instinct. Mais cet instinct, après s'être appliqué à ma mère, grandissait, grandissait, s'appliquant à nos camarades et à nos maîtres. Je me sentais différent d'eux, d'une différence que je résumerais d'un mot. Je croyais les comprendre tout entier, et je ne croyais pas qu'ils me comprissent. La réflexion m'enseigne maintenant à croire que je ne les comprenais pas plus qu'ils ne me comprenaient. Mais je vois aussi qu'il y avait en effet entre nous cette différence qu'ils acceptaient, et leur personne et la mienne, simplement, bonnement, bravement, au lieu que je commençais déjà de me compliquer en pensant trop à moi-même. Si j'ai de trop bonheur senti qu'au rebours de la parole du Christ, je n'avais pas de prochain, c'est que je me suis habitué, de trop bonheur, à exaspérer la conscience de ma propre âme et par suite à faire de moi un exemplaire, sans analogue, d'excessive sensibilité individuelle. Mon père m'avait doué d'une curiosité prématurée d'intelligence. N'étant plus là pour me tourner vers le monde des connaissances positives, cette curiosité sans emploi retomba sur moi-même. L'esprit est une créature vivante comme les autres, et chez qui toute puissance s'accompagne, comme chez les autres, d'un besoin. Il faudrait retourner le vieux proverbe et dire « pouvoir, c'est vouloir ». Une faculté aboutit toujours chez nous à la volonté de l'exercer. L'hérédité mentale et ma première éducation avaient fait de moi un intellectuel avant le temps. Je continuais de l'être, mais toute mon intelligence s'appliquant à mes propres émotions, faute d'un maître semblable à celui que j'avais perdu, je devins auprès de ma mère, qui ne le soupçonna jamais, un égotiste absolu d'une extraordinaire énergie de dédain à l'égard de tous. Ces traits de mon caractère ne devaient d'ailleurs apparaître que plus tard, et sous l'influence des crises d'idées que j'ai traversées et dont je vous dois maintenant l'histoire.